après ce début un petit peu délicat, on va faire une émission tout à fait normale des carnets de Gomaguer, comme chaque mardi, pratiquement sans interruption, ou à peine, depuis une paire d'années aussi, en compagnie donc de Roselyne, merci
bonjour.
D'être là, et en compagnie de Habib.
Bonjour, bonjour Aïcha.
Voilà. Et toujours avec Aïcha, voilà, qui manipule tous ces petits boutons, des noirs, des rouges, de toutes les couleurs et tout. Un grand pupitre avec Maestria. Qui c'est Maestria? Ben, c'est la copine d'Aïcha.
Ah, ouais.
Évidemment,
oui,
tout le monde,
la jeune fille.
Tout le monde a un compte. Voilà. Bien. Je commence avec un large sourire, mais ça ne suivra pas forcément la suite de l'émission.
Roselyne est occupée.
Ah. Alors, on va commencer par donner des perspectives. Ainsi qu'une nouvelle qui est passée presque inaperçue, qui est un tout petit twist du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, et qui dit, écoutez bien, parlant du 11 septembre 2001, dit « Mais nous savons très bien que ce n'est pas Al-Qaïda qui a fait les incidents, c'est les États-Unis qui les ont organisés eux-mêmes. » Alors quand après donc 21 ans de patience et en tournant leur langue plusieurs fois dans leur bouche, comme on dit, les Chinois, ben ça c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est donc une décision politique de la plus haute importance, les Chinois disent « Vos mensonges, on n'en peut plus de vos mensonges. C'est vous qui avez organisé les attentats du 11 septembre, ce n'est pas Al-Qaïda. Point. Nous le savons, vous le savez aussi bien, vous avez menti à l'humanité entière depuis cette date-là. » Et vous avez profité de ce mensonge pour assassiner des Afghans, pour assassiner des Libyens, pour assassiner des Syriens, etc. Et vous avez bien l'intention de ne pas vous arrêter. Bon, ben nous, on va vous dire que ça, on sait que c'est vous qui organisez tout ça. Et maintenant, on a décidé de vous en empêcher par tous les moyens à notre disposition. Que les choses soient claires. Alors ça, c'est moi qui l'ajoute. Hein. Mais le simple fait, la décision politique que le ministère des Affaires étrangères à Pékin dise... Ce n'est pas Al-Qaïda qui a fait les attentats du 11 septembre, c'est les États-Unis. Alors, ils ne disent pas qui, ils ne disent pas c'est M. Pierre, M. Paul ou Mme Jacques. Ils disent c'est parti de l'intérieur de l'appareil d'État. Une fois qu'on en est là, d'ailleurs, on peut réfléchir. Il y a déjà des gens qui avaient réfléchi à leur corps défendant, parce qu'après, on a dit beaucoup de bêtises sur eux. Et bon, c'est pas évidemment M. Bush qui, un beau matin, est arrivé et a signé un papier en disant... Hein, On fait sauter les deux tours du centre de commerce international. Il y aura 3000 morts. Il y a des gens qui sauteront par la fenêtre du 45e étage et tout. Ce n'est pas le président qui a décidé. Mais il y a quelque part une décision qui s'est prise et qui a été exécutée. Non. Alors ce qu'on appelle l'état profond, enfin, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer, mais on sait qu'effectivement, ce jour-là d'ailleurs, je vais dédouaner le président des États-Unis. Le président des États-Unis, au moment donc, où les avions percutaient les deux tours du centre de commerce international, George W. Bush était dans une école communale en Floride, enfin dans le sud des États-Unis, en train d'assister à une leçon. Il faisait une visite de terrain pour regarder comment fonctionne la société des États-Unis. Et dans toutes les vidéos qu'on a vues, qui je pense n'ont pas été supprimées... On a une visite musicale.
Je ne sais pas l'arrêter, les clignots.
C'est quoi? C'est ton téléphone? Bon.
Il faut l'arrêter.
Voilà. Bon, alors, on va reprendre. On va reprendre. Décidément. Bon, on va reprendre. Donc, ce jour-là, le président des États-Unis en exercice, donc on est en septembre, il a pris ses fonctions donc au début de l'année 2001, donc le 6 janvier comme d'habitude, et il est en train de faire une visite de terrain. Il va voir comment fonctionne une école communale, le primaire, dans un état du sud des États-Unis. Et il est là en train d'écouter, il est assis sur une petite chaise très sagement, il est en train d'écouter la leçon faite par l'institutrice aux petits-enfants qui sont là. Et à un moment donné, on voit rentrer dans le champ de la caméra un des personnages donc, de son entourage qui vient lui glisser un mot à l'oreille, qu'on n'entend pas bien sûr sur les vidéos, et qui probablement lui dit « la tour de commerce numéro 1 est tombée ». Bon, il ne saute pas de sa chaise, il ne s'en va pas en courant ou en hurlant au fou, etc. Il fait « ah bon ?» comme si effectivement on lui avait dit que son petit-fils avait perdu une dent. Bon, ben non. Bon. Et après, l'autre revient quelques minutes plus tard. Vous savez, il y a une deuxième tour qui est tombée. Alors là, il commence à avoir un peu d'agitation dans l'entourage de Bush. Il se lève et il quitte la salle de classe. Bon. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à partir de ce moment-là, où il sait, donc on l'a averti, donc, et apparemment à voir son visage, ou alors c'est un comédien de grand, grand niveau, il est surpris par la nouvelle, il s'y attend pas. Donc à partir de ce moment-là, au lieu de regagner son poste, puisqu'il est responsable de la défense des États-Unis d'Amérique, avec tous les moyens de sa défense qu'on connaît qui sont considérables, bon, au lieu de ça, il s'en va faire une petite tournée en avion. C'est-à-dire que pendant tout le temps, pendant toute la journée, donc vous savez, les attentats ont lieu vers 9h du matin, pendant toute la journée du 11 septembre 2001, monsieur le président des États-Unis est en train de se promener dans un avion militaire et il va d'une base à une autre. Mais il ne peut pas accéder à l'endroit où il deviendrait le responsable en chef et en dernier ressort de la défense du territoire des États-Unis qui a été attaqué. Qui est-ce qui commande à ce moment-là? Alors ça, on ne l'a pas trop dit. Mais dans ces cas-là, si le président est empêché de commander, il y a un vice-président. C'est fait pour ça dans la Constitution. Qui, lui, il se trouve, il est dans les sous-sols de la Maison Blanche, là où il y a tous les postes de commande. Lui, il sait ce qui se passe. Et à un moment donné, à la fin de cette journée, où donc M. Bush va finir par être accepté pour revenir dans son bureau, on dit que ben, c'est Al-Qaïda. Et puis M. Bush fait une déclaration, « Nous avons été attaqués par Al-Qaïda ». Il n'en sait rien. Il n'a pas...
Je ne sais pas si vous avez vu les tours, comment ils sont tombés.
Oui, en plus, alors...
Un peu comme...
Tout à fait, voilà, en plus. Oui. Alors, après, il y a énormément, ça, hein. Énormément de littérature et de recherche, mais je voulais rappeler ces faits. C'est-à-dire que quand la République populaire de Chine dit « hier, nous savons que ce n'est pas Al-Qaïda », eux, ils ont c'est eu tout sûr. Le temps, avec leurs services de renseignement, d'analyser toutes les vidéos, de lire tous les livres, etc., de s'appuyer sur tous les témoignages de tous les scientifiques des États-Unis, enfin, je veux dire, les spécialistes en architecture, en résistance des matériaux et tout, qui ont dit « mais c'est pas possible qu'un avion fasse tomber des tours comme ça, c'est surtout pas possible que l'après-midi du 11 septembre 2001, une troisième tour tombe toute seule, juste à côté des deux premières ». Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu le feu. Ah bon, mais regardez dans toutes les archives de l'urbanisme contemporain, jamais un feu dans un bâtiment de haut étage l'a fait tomber. Ça veut dire que les bâtiments sont en guimauve, ils fondent quand il y a feu. C'est pas vrai. Bon. Tout ça, on le sait. Alors, j'y reviens parce que la position de la République populaire de Chine me permet d'y revenir. C'est ça. Mais ce que ça veut dire, c'est politiquement extrêmement fort. Ça veut dire vos mensonges, on n'en peut plus. C'est tout. Et vous avez profité de ces mensonges, parce que ce serait que des mensonges. À la limite, c'est gratuit, vous mentez. Bon, ça va, tout le monde peut mentir. Mais à partir d'un mensonge, vous avez 20 ans d'occupation de l'Afghanistan. Vous avez des millions de morts. À partir du 11 septembre, vous avez l'attaque contre la Libye. Vous avez l'attaque contre la Syrie.
Printemps arabe.
Voilà, vous avez les printemps arabes. Vous avez tout ça qui est le fruit de ce mensonge initial. Ouais. Donc c'est un signal disant ces mensonges-là, on n'y croit plus et on ne vous laissera pas continuer à tirer des conséquences funestes, mortelles, dans des populations étrangères, des mensonges énormes que vous fabriquez.
C'est vrai.
Bon, ça donne une ouverture sur la situation.
Il y a eu beaucoup des écrits dessus.
Oui, il y a énormément de choses. Alors, il faut savoir qu'en plus, les gens qui se sont mis à douter, alors dans certains, on les a montrés du doigt en disant ils disent n'importe quoi, complotistes et tout. Ils ont simplement posé des questions comme je vous pose. Comment une tour qui a été touchée par rien du tout tombe l'après-midi à quelques mètres des deux premières? Comment un avion, alors qu'on connaissait la résistance des matériaux avait été calculée, on connaissait exactement la puissance des colonnes d'acier qui constituait le cœur des deux tours, c'était impossible. Bon, ça a été étudié par des scientifiques, des ingénieurs, des universités américaines, et on n'a pas voulu le savoir. Bon, c'est tout. Alors après, il y a quand même eu, et il y a encore heureusement des citoyens américains qui ont perdu, dans cette tour, il y a à peu près 3000 personnes qui sont mortes, qui étaient au travail. Il y a encore des familles qui disent, moi je veux savoir ce qui s'est passé. Parce que s'il y a une responsabilité quelque part dans l'appareil d'État, on nous doit des dédommagements, non seulement des dédommagements, des excuses les plus plates possibles. Vous nous avez fait croire que c'était des étrangers qui avaient fait ça. Alors, vous savez, après, on a trouvé un certain nombre de nigauds qu'on a envoyés à Guantanamo pour leur faire payer tout ça, etc. Tout ça, c'est la suite. Mais au départ, il y a un énorme mensonge fabriqué qui était la décision des États-Unis de rentrer en guerre. Alors, je rappelle le contexte, puisqu'on est encore dans ce contexte-là qui a un peu changé de forme. Il s'agissait de la guerre permanente contre le terrorisme, c'est-à-dire une guerre qui peut être déclenchée à tout moment, à n'importe quel endroit, pour n'importe quel prétexte, sur la totalité du sol de la planète. C'est-à-dire, nous sommes le gendarme du monde et nous entendons bien le rester.
En plus de ça, les personnes d'Al-Qaïda, les combattants, ce sont des gens qui s'en servent d'une Kalachnikov.
Qui avaient appris à piloter des petits avions de tourisme. Je ne vais pas m'étendre, ça a déjà été beaucoup expliqué. Simplement, le signal qu'envoie aujourd'hui la Chine aux États-Unis, c'est dire « nous ne voulons plus que vous recommenciez ». On ne gobe plus ce genre de mensonge et surtout on n'accepte plus les conséquences de ce mensonge.
C'est vrai.
C'est très important.
Les conséquences qui sont mortifères pour des populations qui n'y sont pour rien. Parce que je rappelle que les Afghans ont dit « mais nous, on n'a rien fait ». Et les États-Unis ont dit « oui, mais Ben Laden est chez vous oui. ». Et alors, ils ont même dit « si vous voulez qu'on vous le renvoie, on vous le renvoie ». Et les États-Unis ont dit « non, c'était trop facile de dire « le coupable, vous l'avez, c'est de votre faute ». Ils n'avaient rien fait. Bon. Depuis, on sait ce qui s'est passé en Afghanistan.
Et puis le plus grand mensonge, pour moi, c'est le cercueil de Ben Laden.
Alors là aussi, puisqu'il avait été dit que c'était Ben Laden et son entourage, on savait que Ben Laden, qui était très fatigué, qui déjà au moment du 11 septembre était en dialyse, c'est-à-dire il ne pouvait pas circuler facilement, c'était un vieux monsieur avec une canne, etc. Bon, on savait même que l'été avant le 11 septembre, il était allé faire une dialyse à Dubaï, on l'avait vu, les agents de renseignement des États-Unis l'avaient identifié et reconnu, tout ça était connu, et donc on savait où était Ben Laden, il était réfugié dans une installation militaire au Pakistan. Il ne faisait plus rien. Il vivait ses derniers jours le plus tranquille possible et malade. Bon.
Ouais. Et, oui, Roselyne. Non, je me demandais à quelle occasion le ministre chinois a fait cette déclaration.
Comme ça, il n'y a pas... Voilà.
Parce qu'ils ont dit quand même on a assez de mensonges des Américains.
Ça fait partie du contexte. Du contexte dans lequel je vais revenir, qui est le contexte de la guerre actuelle. C'était pour ça, pour dire les mensonges, on en a déjà eu, maintenant, ça commence à bien faire. Bon, alors j'achève sur Ben Laden, puisqu'il faut achever sur Ben Laden. Donc, M. Ben Laden est réfugié avec son entourage donc, dans une installation militaire au Pakistan, qui est connue. Un beau jour, des hélicoptères de l'US Army avec des commandos spécialisés atterrissent à cet endroit. Donc arrivent les armes à la main, emportent Ben Laden et le tuent probablement, tuent un peu de son entourage. Enfin, on sait que ces deux hélicoptères qui sont arrivés donc avec les nageurs de combat de l'US Navy sont repartis avec Ben Laden et peut-être quelques autres. On sait qu'un des deux hélicoptères qui avait mené cette opération est tombé en mer. Donc les témoins de l'enlèvement éventuel de M. Ben Laden sont peut-être morts à cette occasion. Et on a ensuite assisté à une grande séquence hollywoodienne dans le fameux bureau ovale de la Maison-Blanche. On voit tout l'état-major, on est sous Obama. Donc tout l'état-major de Obama qui est réuni devant un grand écran vidéo où on assiste à la mise en mer du linceul de Ben Laden, c'est-à-dire un grand drap blanc qui est jeté en mer dans la mer d'Oman, je crois, ou dans l'océan Indien.
Avec quelques kilos de plomb.
Voilà, pour qu'il descende le plus profond possible, pour que les poissons ne le ratent pas. C'est tout à fait ça. Et donc voilà, et on dit, c'était Ben Laden. Ah bon, mais puisque vous le dites, pourquoi pas Donc on est en plein dans l'hollywoodisme le plus profond, c'est-à-dire, vous venez d'assister à l'enterrement de M. Ben Laden. Bon. Dont acte, peut-être, c'était peut-être lui, c'était peut-être pas lui, c'était peut-être même pas un corps humain, c'était un linceul blanc, tout ce qu'on a le droit de voir. Donc, jolie mise en scène, mais à la limite, presque des faux. Alors, vous savez que l'industrie du cinéma est coutumière des faux. Donc, effectivement, on peut très bien envelopper une forme dans un grand drap blanc et dire « Regardez, c'était Ben Laden ». Et à la limite, on peut la refilmer 25 fois pour que la scène soit l'apparence de l'authenticité. Bon, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais c'était à expliquer parce que ça fait partie du climat dans lequel nous trouvons. Ce climat, il s'est dégradé depuis une huitaine de jours sur la scène ukrainienne, j'appelle ça comme ça, pour reprendre un peu le langage cinématographique, parce qu'on a compris que l'armée ukrainienne, ou ce qu'il en reste, est en train de changer de tactique, c'est-à-dire ayant constaté son incapacité non seulement à défendre la ligne de front, mais même à avancer. Ça fait des semaines qu'on dit que l'armée ukrainienne va avancer, elle n'avance plus, elle ne fait que reculer, pas à pas, mais elle recule, village après village. Donc l'armée russe et l'armée des républiques indépendantes progressent vers l'ouest de plus en plus. Bon, ça c'est tout à fait clair. Donc l'armée ukrainienne, de fait, elle est battue militairement. Il ne lui reste quoi ? Il lui reste effectivement à changer de méthode et à faire des dégâts dans le camp de l'adversaire par les méthodes qui restent quand on n'a plus une armée, c'est-à-dire des méthodes terroristes, c'est-à-dire...
C'est ce qu'ils font
actuellement. Voilà, tirer sur un dépôt de munitions, tirer sur des objectifs civils, etc. C'est ça. C'est une espèce de fuite en avant, c'est-à-dire l'action militaire classique ne tient pas, elle est dans l'incapacité, et donc on est obligé de recourir à ça. Entre-temps, d'ailleurs, ce qui a été démontré, c'est que l'armée ukrainienne, elle est tellement démoralisée qu'on vient de découvrir, dans un journal des États-Unis, qu'il y a à l'intérieur de l'armée ukrainienne, ou de ce qu'il en reste, des groupes spéciaux qui sont appelés les Kraken, je donne le nom. Ces groupes spéciaux font partie des unités militaires, et dès que des combattants ukrainiens montrent des signes de faiblesse, où on a envie de soit de déserter, soit de reculer pour aller se mettre à l'abri parce qu'ils sont sous le feu de l'artillerie russe, ces messieurs des groupes Kraken les fusillent à bout portant. C'est-à-dire, hein, vous avez déserté, mais sur le champ, vous êtes mort. Hein. C'est comme ça que fonctionne aujourd'hui l'armée ukrainienne. Bon, c'est-à-dire qu'elle est à bout et il ne reste plus que les techniques les plus brutales, les plus violentes, terrorisme, assassinat anonyme, etc. Alors ça, c'était commencé, ce pli de la guerre d'Ukraine, on est à 6 mois, on sera à 6 mois demain de la guerre d'Ukraine, ça c'était commencé depuis une quinzaine de jours en gros. Et on était monté crescendo avec l'histoire d'une éventuelle attaque contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, etc. Tout ça, vous avez suivi. Mais là, on vient de passer, ce week-end, une nouvelle étape dans la guerre terroriste, qui est l'assassinat à Moscou, d'une personne sur laquelle je vais m'arrêter, dont le nom maintenant est sur tous les écrans et sur toutes les chaînes de télévision, qui s'appelle Daria Dugina. Alors c'est la fille d'un théoricien, d'un géopoliticien russe, qui donc s'appelle Dugin, qui est connu, qui est un monsieur de la soixantaine d'années, qui est connu pour avoir écrit toute une série de textes sur la géopolitique et sur l'avenir de la Grande Russie, qui est connu pour avoir des positions qui ne sont pas celles du gouvernement russe. Alors j'insiste là-dessus parce que, en gros, la grande majorité, enfin, le discours officiel de la propagande occidentale, c'est dire Dugin était l'inspirateur de Poutine. Or, il faut savoir qu'il n'y a aucun lien officiel entre Poutine et Dugin. Dugin, c'était un monsieur qui avait une espèce d'association, qui faisait des colloques. Oui, il était philosophe, il parlait 20 langues, c'était un monsieur cultivé, mais qui avait de drôles d'idées, qui était quand même très profondément antisémite, qui était pour une espèce de Russie éternelle, supérieure à tous les autres pays. Bon, c'était un nationaliste assez extrême, j'allais dire.
Extrémiste,
oui. Ouais, bon. Ouais. Donc le personnage, moi je connaissais ce personnage parce qu'on en parlait de temps en temps, j'ai jamais accordé un crédit particulier à ce monsieur, et il est clair, personne, après que les journaux occidentaux disent inspirateur de Poutine, personne n'est en capacité d'apporter la moindre preuve. Il n'a jamais eu de fonction officielle, il n'a jamais été consulté, on ne peut pas sortir des vidéos où on le voit en train de serrer la main à Poutine, où on les voit discuter ensemble. Donc tout ça, c'est une fabrication. Car il s'agit de dire, en fait, c'est Poutine qui était visé, parce que tous les gens qui sont avec Poutine sont de la même fibre et donc du même acabit que ce personnage, c'est-à-dire antisémite, violent, enfin violent en parole. Je précise, puisqu'il ne s'agit pas de violence, il s'agit juste d'un monsieur qui a des idées, effectivement, très nationalistes, très réactionnaires sur toute une série d'aspects, mais il était à la tête de rien, pas d'une milice, il n'avait pas des groupes armés à sa disposition, il n'émettait que des idées. Et on le laissait émettre ses idées, parce que, à la limite, j'allais dire, tout farfelu peut émettre des idées dès l'instant où il tue personne au nom de ses idées. Ce qui était exactement le cas. Bon, ce monsieur avait une fille, apparemment unique, je n'ai pas entendu parler d'autres héritiers, qui avait 29 ans, qui était douée comme lui pour la parole et pour l'écrit, puisqu'elle était philosophe. Elle avait fait des écrits très pointus sur Platon et le platonisme. On l'appelait d'ailleurs Daria Douguina Platonova, hein, fille inspirée de Platon. Elle était en même temps correspondante de guerre, c'est-à-dire que depuis le début de la guerre d'Ukraine, elle allait sur le terrain et elle faisait des interviews. Alors j'ai eu l'occasion, et je n'ai pas réussi à la retrouver, parce que comme quoi sur Internet, les choses qui gênent disparaissent très très vite, j'ai retrouvé avant-hier une interview de cette dame, de Daria Douguin, en français.
Qu'elle parlait couramment le français.
Elle parlait 15 langues. Elle parlait 15 langues et elle pouvait... Il y a un souci technique. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Changeons de micro. Bon, ouais. On coupe alors. Hop. Je me mets au vert.
Oui. Et toi, tu te mets en rouge. Désolée, là, aujourd'hui, c'est parti.
Voilà, là, je reprends. C'est bon? Donc voilà, je reviens donc sur le personnage. Ah. Oui, voilà, je reviens donc sur le personnage de la fille de M. Douguin, donc Daria Douguina Platonova, puisque c'était comme ça qu'on l'avait surnommée, qui donc était une intellectuelle, qui partageait une partie des idées de son père, mais qui, elle non plus, n'était pas à la tête d'une milice armée ou d'une bande fasciste qui terrorisait les gens. Elle avait des idées, elle les défendait, elle était en particulier d'accord avec l'action menée par la Russie en Ukraine depuis le mois de février, mais c'est pas pour autant... Si toutes les personnes qui, en Russie, pensent que l'action menée par le gouvernement russe est légitime, c'est une affaire qui va mener au tombeau 100 à 120 millions de Russes. Hein, on en est là. Donc, bon. Mais là, c'était un symbole, puisque son père était détesté de beaucoup. Il passait comme un idéologue de la grande Russie éternelle. Hein, et donc, c'était quelqu'un qu'il fallait abattre intellectuellement. Bon, en fait, on a raté le père et on a tué la fille.
Alors, on, c'est qui ?
Hein ?
On, c'est qui ?
Alors, voilà. Ça s'est très vite réglé. Donc, l'assassinat a lieu donc samedi à fin de journée, à la suite d'une réunion qui était tenue très tranquille, sans service d'ordre, sans contrôle d'identité et tout, donc par son papa à laquelle elle assistait. Et à la sortie de la réunion, ils se séparent. Elle monte dans une voiture, lui monte dans une autre. Bon, il se trouve que c'est la voiture où elle était, elle, qui est visée par l'attente. Et quelques minutes après, donc, la voiture explose. Alors il a été trouvé tout de suite qu'il y avait 400 grammes de dynamite, ce qui est largement suffisant pour tout briser. Elle a brûlé vive dans la voiture, hein, et donc elle est morte sur le coup, pas de souci. Ça, c'était samedi après-midi. L'assassinat est tellement clair. D'abord, pour faire sauter une voiture avec de la dynamite, il faut pas. C'est pas comme quelqu'un qui prend un revolver et qui s'énerve et qui va tuer quelqu'un dans la rue. Hein. Piéger une voiture avec de la dynamite, il faut d'abord trouver la dynamite, il faut savoir où mettre. Enfin, il y a une technique de ce type d'attentat qui ne s'apprend pas dans les écoles, hein, ou dans les écoles de guerre, mais autrement non. Donc, là, il y a eu une préparation par des spécialistes de l'attentat. Bon, ça, c'est tout à fait clair. Alors après, qui ? Ben, qui s'est allé très très vite, puisque en fait il se trouve que dès hier, ou je crois même dès dimanche soir, les services de renseignement russes ont mis la main sur la personne, enfin, pas mis la main, mais ont identifié la personne qui avait réalisé l'attentat. Alors il s'agissait d'une citoyenne ukrainienne qui s'appelle Natalia Volfk, qui est arrivée en Russie, comme beaucoup de réfugiés, dans la grande foule des réfugiés d'Ukraine qui viennent en Russie. Vous savez que la Russie a accueilli, on a parlé de la Pologne, de l'Europe, etc. Mais la Russie en a accueilli beaucoup. Donc elle est passée, et elle est passée, une jeune femme de la trentaine, avec une petite fille, donc à qui on ne prête pas a priori des intentions très très dangereuses. Elle est réfugiée, elle cherche un abri, et elle s'installe à Moscou. Le problème, c'est qu'elle s'installe à Moscou dans le même bâtiment que la personne qu'elle a été chargée d'assassiner. Donc ça veut dire qu'elle l'observe. Elle l'observe depuis la fin du mois de juillet, depuis en gros un mois, hein, pour savoir suivre ses allées-venues. Elle l'observe avec une petite voiture, une Mini Cooper, qui a été identifiée par les services de renseignement russes, avec trois identifications déjà dans le mois, donc une plaque russe, une plaque kazakh, puis une plaque ukrainienne. Enfin, quand même un travail d'assez haut niveau en termes d'action souterraine. Bon. Et à la sortie, cette personne assiste assiste à la réunion conduite par M. Douguin, père, à laquelle assistait la fille de Douguin. Elle y est comme si elle était un simple sympathisant qui viendrait écouter un meeting dans une salle. Donc là, je me mets un peu dans la scène. Cette personne sait que la jeune fille qui est à côté du monsieur qui a la parole, hein, charmante par ailleurs, bon, ça ne change rien à l'assassinat, elle va la tuer dans les 5 minutes qui viennent, c'est-à-dire elle va la liquider, cette personne va mourir. Elle l'écoute, elle la regarde, et elle sait ce qu'elle va faire. Elle sait ce qu'elle va faire, puisque quelques minutes après, quand la voiture donc, qui est conduite par Doria sort de la réunion, il y a un moment donné où par télécommande, hein, avec un téléphone, on décide de faire sauter la dynamite. Voilà. Bon. Tout ça est identifié. Tout ça est identifié. Donc
c'était le père qui était visé.
Alors, il y a un doute. Est-ce qu'on a voulu, voilà, est-ce qu'on a raté, parce qu'effectivement, ils sont venus, la fille est partie avec la voiture de son père et lui est parti dans une autre voiture. Est-ce qu'il y a eu erreur sur le personnage? On ne sait pas, c'est possible. On peut en douter, puisqu'en même temps, le père, on pouvait considérer qu'il était âgé et qu'il avait plus beaucoup de choses à dire. La fille faisait un travail de terrain, elle faisait en partie des reportages pour les télévisions dans toutes les langues qu'on lui permettait d'utiliser pour expliquer ce qui se passait. Elle avait fait des reportages très importants à Mariupol pour expliquer la fin de l'usine d'acier, etc. Donc elle allait continuer à avoir un rôle important suite des opérations d'information et dans la guerre de l'information qui est en cours. Donc elle était. Alors, est-ce qu'on a pensé, parce que quand on en est à imaginer ce genre de scénario, on peut imaginer que tuer la fille unique d'un père qu'il aime certainement, c'est détruire psychologiquement le père. Donc on peut faire d'une pierre deux coups. On assassine un physiquement et l'autre mentalement. On peut se mettre dans la peau du père, hein, dans ce cas-là. Surtout ce genre de fin épouvantable. Bon. Voilà où on en est. Et donc la jeune Natalia a fui, elle a eu le temps de partir. On sait qu'elle est partie en Estonie. Et donc au plus près de Moscou, où elle est encore. Et la question va se poser maintenant de savoir, effectivement, si l'Estonie va accepter de la renvoyer. Parce que, évidemment, le gouvernement russe va demander des explications. Ouais. Alors, la diplomatie russe, là-dessus, donc les services de renseignement ont fait leur boulot. Ils ont identifié, ils savent les heures, la quantité de dynamite. Enfin, rien ne leur a échappé. Ils connaissent les numéros de la plaque d'immatriculation de la Mini Cooper. Tout est clair. Bon. Mais de là à passer à une action politique du gouvernement russe, il y a une certaine prudence diplomatique qui est nécessaire, qui est incarnée par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, donc la fameuse Maria Zakharova, qui dit, je cite, « Si la piste ukrainienne est confirmée, alors nous devons parler de la politique de terrorisme d'État mise en œuvre par le régime de Kiev. » Voilà. Donc, c'est en termes diplomatiques, c'est mesuré, c'est prudent. Mais on dit donc, on sait bien que ça a été une action menée par des gens qui ont une formation au terrorisme, à ce type d'action violente, hein. Qui les a commandités, qui leur a dit de le faire. Ben effectivement, ce qu'on sait de Natalia Vovk et de son frère en particulier, c'est que son frère faisait partie du bataillon Azov. Donc elle était liée, et puis il y a des photos qu'on peut retrouver, donc elle y était liée au milieu fasciste, nazi, ukrainien. Voilà. Alors, de là à dire, alors, j'imagine tout à fait la réponse du gouvernement ukrainien, ça va dire c'est un groupe fasciste à l'intérieur de l'appareil d'État, c'est pas nous. Hein. Bon, mais enfin, ça, c'est pour ça que le ministère des Affaires étrangères russe dit si la piste ukrainienne est confirmée, c'est-à-dire qu'on va voir si effectivement c'est un groupe à l'intérieur de l'appareil d'État ukrainien ou si c'est une décision de Zelensky lui-même dans le cadre de ce durcissement et de ce passage à l'action terroriste que je signalais pour commencer, qui est à l'ordre du jour, c'est-à-dire que l'armée ukrainienne est en incapacité de faire quoi que ce soit de plus. Elle ne peut que reculer. Et donc, il ne reste qu'à faire peur au monde entier. C'est ce qu'on fait avec la centrale nucléaire. C'est ce qu'on fait en tirant sur la Crimée. C'est tout ce qui reste.
C'est comme la centrale nucléaire, elle a été occupée par l'armée russe.
Bien sûr.
Alors, comment voulez-vous que le russe envoie des fusées sur c'est impossible. C'est du mensonge.
Bien entendu. Voilà. Alors, j'y reviendrai parce que je suis en train de faire un travail, on y reviendra la semaine prochaine. Sur cette centrale nucléaire, c'est assez intéressant. J'en dis pas beaucoup. J'ouvre un tout petit peu le dossier, mais on en reparlera beaucoup plus longuement. Il faut savoir que depuis un certain temps, alors je n'ai plus la date, je crois que c'est en 2000, les États-Unis avaient signé avec le gouvernement ukrainien un accord au terme duquel il fournissait, une firme des États-Unis dont je vais dire le nom, fournissait aux centrales nucléaires ukrainiennes le carburant, c'est-à-dire ce qu'on appelle les barres d'uranium qui permettent la fission, etc. L'idée était toute simple, c'était de dire... Aujourd'hui, toutes ces centrales qui existent sur le sol ukrainien sont des centrales qui ont été construites au moment de l'URSS ou tout de suite après. Et donc, c'est des techniques russes. Et il faut savoir que quand la Russie, encore aujourd'hui, vend une centrale nucléaire, c'est elle qui vend le carburant et c'est elle qui recycle les déchets. On en a beaucoup parlé au moment où il y a eu un accord avec les Iraniens pour faire la centrale de Bandar-Bouchir. Et les Russes ont été tout à fait clairs en disant non, hurlez pas, parce que tout le monde hurlait en Occident et tout. Ne hurlez pas, nous leur fournissons la centrale, on la construit, on leur fournit le carburant. Et c'est nous qui retraitons les matériaux usagés. C'est-à-dire le plutonium, s'il y en a, c'est pour nous. L'uranium enrichi, on le prend aussi. L'Iran ne garde pas de matériaux fissiles sur son sol. On lui met le carburant, après, quand il l'a utilisé, on prend les déchets. Bon, c'est tout à fait clair. Et ça fait partie de la politique constante de la boîte russe qui s'appelle Rosatom, qui gère tout ça. Bon. L'idée toute simple des États-Unis à partir de l'an 2000, c'est dire il faut que, bien entendu, l'Ukraine nouvelle a besoin de ses centrales nucléaires, puis pour son électricité, mais il faut que petit à petit, on les coupe du fournisseur russe pour que ce soit un fournisseur des États-Unis qui mette le carburant là-dedans. Et donc, sous-entendu, et donc ensuite, le recyclage des déchets, c'est pour nous aussi. C'est-à-dire, donc, il s'agit de couper totalement l'Ukraine de la Russie, par tous ces aspects-là, de garder les centrales nucléaires, mais d'être celui qui fournit le carburant. Alors, en plus, ça a un gros intérêt économique, c'est-à-dire, vous fournissez le carburant, et l'Ukraine l'achète. Hein. Et puis ensuite, vous le retraitez, donc l'Ukraine paye le retraitement, hein, tout ça. Mais il s'agit d'une coupure qui était la même coupure qui était à l'œuvre déjà pour le réseau d'électricité. Il faut savoir, j'ai déjà développé là-dessus, le réseau électrique soviétique couvrait depuis la frontière occidentale de l'Ukraine, donc à la limite de la Pologne et de la Slovaquie, jusqu'à l'extrême fond de la Sibérie. Il y avait un seul réseau, qui était d'ailleurs le plus grand réseau électrique du monde, forcément. Et la politique des États-Unis depuis l'indépendance de l'Ukraine, ça a été de dire il faut que petit à petit, on coupe le réseau électrique ukrainien du réseau russe et qu'on fasse basculer l'électricité, enfin le réseau électrique ukrainien sur l'Europe de l'Ouest. De telle façon, si on a à la fois l'uranium pour les centrales, le réseau électrique qui est branché chez nous et pas chez eux, la Russie n'a plus aucun lien du tout avec l'Ukraine. Bon, alors ça... Ça, c'est facile à dire. Je le dis en quelques secondes. Ça prend des années à se mettre en place parce qu'à certains moments, les gouvernements à Kiev savaient, mais ne laissaient pas faire ou traînaient les pieds, etc. Mais on était bien dans ce dispositif-là, c'est-à-dire couper le réseau électrique ukrainien du réseau russe, couper les fournitures russes pour les usines nucléaires ukrainiennes de leur acheteur, hein, et passer tout ça à l'Occident. Le développement, je le ferai la semaine prochaine.
Il y a eu le grand mensonge. J'ai dit à partir du moment où la Russie a voulu intervenir pour le Donbass, il y a eu un mensonge très, très... Ça m'a choqué du fait qu'on a dit l'Ukraine ne fera jamais partie de l'OTAN, alors que c'est faux. On lui fournit des armes, on lui fournit
bien
tout.
Bien entendu. Voilà. Voilà, et donc là, la société, j'en reparlerai, s'appelle Westinghouse. Hein. C'est donc la principale société nucléaire des États-Unis. Donc on n'en parle pas beaucoup, mais si vous cherchez, effectivement, vous trouvez que les relations entre Westinghouse et l'Ukraine sont assez étroites et que déjà un certain nombre de centrales nucléaires ukrainiennes, pas celles de Zaporoïe, mais d'autres qui sont plus à l'ouest sur le territoire, sont effectivement approvisionnées en combustible « made in USA ». Et donc le business américain, alors le business américain se développe, c'est-à-dire qu'il faut bien faire un panorama complet. Si vous ajoutez les vendeurs de céréales qui sont américains, l'électricité qui va être fournie par la Pologne et la Slovaquie, le combustible pour les centrales nucléaires, j'en passe et le reste, l'armement évidemment, l'Ukraine n'achètera plus jamais pour un copec à la Russie de quoi que ce soit. L'Ukraine est totalement satellisée. Et c'est d'autant plus facile, c'est pour ça que je reviens sur ta question de l'OTAN et de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on a fait croire à ces nigauds d'Ukrainiens, enfin je leur veux pas de mal, hélas les pauvres parce qu'ils sont pas au bout de leur peine, on aura fait croire qu'ils allaient rentrer dans l'Union européenne. Mais surtout pas, d'abord l'Union européenne ne veut pas d'eux, ils sont dans un état de délabrement. Le PIB de l'Ukraine va diminuer de 25% en 2022. Le chômage est à presque 40%. Hein. Qui voudrait, enfin qui voudrait, si il faudrait être le bon samaritain pour s'occuper d'eux, mais l'Union l'Union européenne, elle ne veut pas d'eux. Hein. Et donc, en fait, c'est en fait une dépendance des États-Unis où les États-Unis font ce qu'ils veulent. Et les Européens sont des nigauds qui ont laissé faire. Hein. Et les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés, c'était pour ça, parce que tout ça suivait, tout ça. Les petits toutous. Les petits toutous, voilà. Et on a affaire donc à une série de gouvernements européens irresponsables qui ont laissé ce pays devenir ce qu'il est, c'est-à-dire un pays exsangue, un pays en guerre, un pays qui est totalement entre les mains des grandes boîtes des États-Unis et pour lequel les États-Unis tirent les ficelles depuis leur côté de l'Atlantique en faisant que les conséquences soient pour nous, les conséquences économiques soient européennes. Méritait d'être dit à propos donc de cette mort lamentable, de cet assassinat lamentable de cette jeune femme.
C'est comme Roselyne a fait des grimaces quand elle a entendu comment elle a été tuée,
il y a d'autres attentats terroristes, il s'inscrit dans cette nouvelle orientation politique, c'est-à-dire les États-Unis en favorisant ça, parce qu'ils peuvent évidemment ne pas faire que le favoriser, en favorisant ça, ils savent bien qu'il n'y a plus d'espoir d'une victoire militaire du régime ukrainien, ils savent bien que le régime ukrainien est très très faible, mais ils veulent que le coût de la victoire russe soit le plus élevé possible, qu'il y ait plus de sang russe, le plus de dégâts économiques à la Russie fait. C'est ça le but de la manœuvre.
Oui,
maintenant. La santé des Ukrainiens, c'est à la limite le dernier de leurs soucis. Bien. C'était très long, tout ce que ça. Tout ça a des conséquences. Je vais vous détailler une conséquence un peu inattendue, mais on va voir les développements. Vous savez que le G20, ce fameux groupe des 20 pays les plus développés du monde, doit se réunir sous la présidence donc, du président donc, indonésien de la période, Joko Widodo, au mois d'octobre à Bali. Alors, il y a déjà eu des réunions préparatoires de ministres des Affaires étrangères, de ministres des Finances, etc. Mais le sommet avec les chefs d'État donc, est programmé pour Bali en octobre. Et c'est ce qui se passe tous les ans, pratiquement. Chaque pays qui accueille le G20 organise tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien et pour accueillir les chefs d'État. Alors là, on est dans une période assez cocasse, j'allais dire, puisque la question se pose de savoir qui va être invité. Ben, les membres du G20, on les connaît. Alors il y a de bons esprits, je mets ça entre guillemets, qui disent « Mais dans le G20, il y a Poutine, on ne va pas l'inviter lui, on peut pas, il n'est pas fréquentable, il va venir, c'est pas possible. » Alors il y a quand même une espèce de balai dans les chancelleries pour dire « Comment, quel motif on pourrait trouver pour lui interdire de venir ?» Alors, alors après on dit « Oui, mais s'il ne vient pas, le président chinois va se fâcher, parce qu'il va dire « Mais moi, je fais aussi partie, je viens, pourquoi vous l'invitez lui et vous ne l'invitez pas lui, vous m'invitez ?» Tu vois. Alors, et en plus, ils s'entendent bien, donc ils vont se fâcher tous les deux. Et un G20 sans la Chine, ça n'a pas de sens. Bon, comment faire ? Alors, on cherche, puis alors, on arrive à des élucubrations, mais à pleurer de rire. Écoutez, la dame qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères du ci-devant Boris Johnson, qui s'appelle Madame Truss, qui est une dure à cuire, manifeste, a dit « Moi, ce que je vais faire, si Poutine vient, je le gifle !» Ah, ça, alors, forte parole. Alors, mais est-ce qu'on a affaire à des gouverneurs sérieux ? On a affaire à la madame qui risque, elle a une bonne chance, elle est la mieux placée des candidats à la succession de Boris Johnson, qui trouve comme bonne parole dire « Regardez comme je suis va-t-en-guerre et forte, je vais gifler Vladimir Poutine ». Mais tu as quel âge, j'allais dire ? Bon, alors là, on est aussi dans le cadre des super-productions cinématographiques. Ce sera la gifle du siècle. Madame Truss aura giflé Vladimir Poutine. Alors, en plus, comme elle l'a dit, et comme il est judoka, je ne sais pas lequel des deux tombera le premier. Mais ça, on verra. On verra. Mais aussi, il se prêtera à ce jeu. Bon.
Il y avait une femme ministre qui dansait aussi. Là, je sais pas
Alors j'insiste là-dessus parce qu'on est au niveau d'enfantillage. Alors quand on a une puissance atomique, des gens qui se prétendent comme les porteurs de la civilisation occidentale et tout, qui en sont à ce niveau de bêtises. Mais on s'inquiète, on s'inquiète. C'est tout ce que vous avez à dire. Je vais gifler Vladimir Poutine. Bon, alors, on sera, alors, ça fera parler dans les gazettes, mais ça ne fera pas avancer les affaires. Donc, j'attends, j'attends parce que tout ça va évoluer. On n'est pas
tu
encore.
Tu vois, c'est comme un peu les chiens qui aboient, la caravane
voilà,
passe.
Voilà, exact. Alors, on attend. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais le Kremlin a confirmé que Poutine viendrait. Il est invité, oui. Il a sa place. La Chine a confirmé que s'il viendrait, ils ont leur place et tout. Et le président indonésien dit que tous les membres du G20 sont invités.
Et je viens de voir que Zelensky avait été invité.
Alors voilà, alors...
Ah oui, il y a,
alors
y a
voilà,
ça aussi.
Alors, le, voilà, l'échappatoire qu'ils sont en train de trouver, c'est de dire, ah ben on va aussi inviter Zelensky.
Oui, on a
alors, un gros problème diplomatique, l'Ukraine n'est pas dans le G20. Alors si on fait venir n'importe qui, pourquoi pas, hein ? Alors après, il y a un débat, est-ce qu'on le fait venir juste en vidéo ou en live ? Alors en live, grandiose, imaginez alors le combat de boxe ou le combat de karaté entre Poutine et Zelensky, grandiose, hein ? Alors Hollywood, là, on crève tous les Oscars de la création, fabuleux, mais on est entre, c'est des gamineries, oui. C'est des gamineries entre puissances nucléaires, les 20 puissances les plus puissantes du monde, mais qu'est-ce que c'est ? Dans quel pays de cinglés vivons-nous ? Moi, j'en arrive là. C'est pas possible. Hein. C'est ça qui les occupe. Parce qu'ils n'arrivent pas, ben je suis très cru là-dessus, ils n'arrivent pas à se situer pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, ils sont à la tête de pays qui sont importants, qui ont signé des traités internationaux, qui devraient les respecter et qui devraient vivre en bonne intelligence avec le reste de la communauté mondiale, avec les autres États. Mais dire, je vais gifler Pierre, je vais cracher sur Paul, je vais assassiner la copine de machin, mais où sommes-nous ? Hein ? On est dans une cour de récréation. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. L'avenir de l'humanité, ça peut pas se régler comme ça, ça peut se régler entre des gens posés, raisonnables, qui passent pas leur temps à s'insulter et à se menacer de s'entretuer. C'est... Bon, je suis un petit peu effrayé par cette évolution. Bon. Alors, il y a quand même des gens qui réfléchissent à la suite. Et pour parler du G20 et des suites, il y a un économiste, peu importe son nom, mais qui se dit, mais après tout, ce G20, ça ne sert plus à grand-chose. On voit en plus que c'est une façon de montrer qu'il y a des plus importants que d'autres. Et il y a un économiste qui vient de proposer un G10+2. Ah! Alors G10+2, c'est assez intéressant parce que ça serait une autre façon de regarder les affaires de l'humanité complète. Dans le G10+2, alors les plus 2, je vous les livre tout de suite, c'est la Chine et la Russie, bien sûr. Et on y ajouterait, et on aurait quand même du beau monde, j'allais dire, le Mexique, le Brésil, l'Indonésie, la Turquie, l'Inde, l'Iran, l'Argentine, le Venezuela, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Ouais. Et là, on commence à avoir quand même un sérieux potentiel de gens de différentes cultures, de différentes couleurs, de différentes langues, de différentes origines, avec des trajectoires politiques très très différentes. On a quelque chose qui pèse son poids, hein, et qui, après tout, aurait peut-être une vision plus globale des affaires du monde que la vision blanche. J'insiste, pauvres Japonais, je les mets dans le camp des Blancs parce qu'ils ont choisi d'y être. Hein. Mais la vision blanche du G7, de l'OTAN et tout, c'est une vision extrêmement limitée de l'humanité. Les Blancs, c'est quand même une toute petite partie de l'humanité. Hein. Et surtout si, en plus, ils sont bêtes et méchants. Et ils sont, bah, on n'a pas envie de leur ressembler. Enfin, les dirigeants des pays blancs sont, hein, et pauvres Japonais, je verse une larme sur les Japonais qui sont équipe avec ces blancs colonialistes. Bon.
La Corée du Sud aussi.
Et la Corée du Sud aussi qui suit le mouvement. Ouais. Voilà, donc ça c'était quand même une petite ouverture vers des réflexions pour la suite des événements, parce qu'il peut y avoir des suites intéressantes. Et je m'arrête sur deux ou trois autres choses intéressantes. Ça n'a rien à voir et vous allez en même temps ça à voir. Il y a eu, c'est toujours dans la même veine, le 4 et 5 juillet s'est tenu à Londres une réunion de ce qu'on appelle le Ukraine Recovery Conference, la conférence pour le rétablissement. Recovery, c'est ce qui arrive quand on sort d'une maladie, c'est la convalescence. Hein. Qui s'est réuni donc à Londres pour parler de la convalescence de l'Ukraine, elle en a bien besoin. Il y avait les USA, l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon et la Corée du Sud. Voilà. C'est ça le camp. Alors je dis pauvres Coréens et Japonais qui sont inclus dans le camp des blancs dominateurs, mais vous savez qu'on s'en occupe. D'ailleurs, ça a donné quand même un résultat très concret, puisqu'il a décidé d'une remise de dette à l'Ukraine, qui évidemment a les poches vides, de 20 milliards de dollars, hein, dans des conditions qui sont extrêmement souples, c'est-à-dire que vous êtes un pays en difficulté, en développement, vous avez besoin d'un moratoire. Un moratoire, ça veut dire que vous êtes plongé, étalé la dette, vous ne la payez pas tout de suite, vous la payez dans 2 ans, dans 5 ans, etc. Vous arrivez, vous pleurez à la Zelensky, vous dire « j'ai plus d'argent », on vous dit « allez, 20 milliards, on te fait cadeau de 20 milliards ». Comme ça, c'est tout, tout est facile quand on est comme lui. Voilà, voilà ce que je voulais dire donc sur les facilités, mais ce, ce camp qui se rétrécit, alors je ne sais pas si le G10 plus 2 verra le jour un jour, mais ce camp se rétrécit. Un autre signe, c'est qu'il y a eu une réunion du SADC. Alors vous ne savez peut-être pas ce que c'est que le SADC. Non. Alors, le SADC, c'est la zone de libre-échange des pays du sud de l'Afrique. Alors ça comprend une dizaine d'États, je ne vous donne pas tous les noms, mais enfin... On commence par l'Afrique du Sud tout en bas, ça monte jusqu'à la République démocratique du Congo, il y a l'Angola, le Mozambique, le Zambie, le Malawi et tout, ben tout, tout le sud au sud du Congo, tout le monde est là. C'est quand même 380 millions d'habitants, de grosses ressources naturelles, plus la plus grosse industrie de, du continent africain, l'Afrique du Sud. Bon, ces gens-là se sont réunis pour parler de leurs affaires habituelles, de, des échanges économiques qu'ils ont entre eux, et puis ils ont répondu à une visite de M. Blinken, le secrétaire d'État de monsieur Biden, pour, qui était venu leur dire « Écoutez, c'est pas normal que vous souteniez la Russie, hein, désavouez la Russie pour l'affaire ukrainienne. » Et ils ont dit non, ils se sont réunis, ils ont dit « Ben nous, on s'est réunis, on n'a pas de raison. » D'ailleurs, on a reçu aussi M. Lavrov, en même, enfin, dans les jours suivants, M. Blinken, et on n'a pas de raison, parce qu'au fond, on est assez d'accord avec la position russe, mais de toute façon, nous sommes libres de notre destin, nous avons des liens ensemble, mais on n'obéit pas à des ordres de quelqu'un qui vient de l'extérieur, en disant « Faites ceci, soyez gentil avec un tel, soyez méchant avec un autre. » C'est terminé. Voilà. Ça, c'est un monde qui change. Hein, puisque quand même on a une dizaine de pays, donc qui représentent 380 millions d'habitants, avec du, un gros potentiel économique, et qui disent, mais nous on n'obéit pas à n'importe qui, le premier venu qui dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ben non, nous on commence à être des grands garçons, ce qui est tout à fait important. J'en suis à parler beaucoup de choses, mais on va faire une petite coupure musicale, brève, pour, me, pour que je reprenne mon souffle. Alors vous allez écouter les quelques premières mesures d'une symphonie d'un compositeur russe qui s'appelle Dmitri Chostakovitch, qui s'appelle Stalingrad. C'était quelques mesures donc, de la symphonie qui s'appelle Stalingrad de Shostakovich. Le Shostakovich dont je rappelle que pendant toute la durée du siège de Leningrad, c'est-à-dire pendant 1000 jours, il est resté installé dans le conservatoire de musique de Leningrad. Il montait tous les jours sur le toit pour regarder les échanges de tirs. Et il a aussi composé une symphonie qui s'appelle Leningrad, qui est de la même encre que celle qui s'appelle Stalingrad. C'est-à-dire qu'il a participé à cette lutte où il y a eu des dizaines de milliers de morts du fait de la famine, hein, parce que le blocus de 1000 jours a été un blocus d'une violence exceptionnelle. Il s'en est fallu de très très peu que Leningrad ne tombe aux mains des nazis. Hein. Donc ça, c'est à se souvenir quand on parle de Shostakovitch. Bien, je vais me déplacer un petit peu, mais tout n'est pas indépendant, pour parler de la Russie, de la Syrie. D'une part, pour parler de M. Salman Rushdie. Alors, on a beaucoup parlé de Salman Rushdie. Oui, on a tiré son chapeau sur les risques qu'il avait pris en dénonçant. Alors, il n'a pas dénoncé, je veux dire, il faut considérer les versets sataniques comme une fiction. Comme une fiction où il dit il y a dans la religion, enfin, c'est d'ailleurs un thème qui a été le sujet de beaucoup d'hérésies, pas que chez les musulmans, chez les chrétiens aussi, c'est-à-dire que des croyants qui disent Dieu a fait ça, c'est bien la création, il y a des petits oiseaux, on sème, etc., mais quand ils regardent la réalité concrète, ils disent Dieu il n'a pas toujours les mains propres, enfin, je caricature, mais c'est ça. Et il y a beaucoup d'hérésies aussi bien chrétiennes que musulmanes qui ont dit: et s'il y avait deux dieux, un bon et un méchant? Et au fond, ce que fait Rushdie dans les versets sataniques, il reprend cette idée, mais qui est une vieille idée, qui a traversé l'esprit de beaucoup de croyants. Et effectivement, quand vous voyez la misère et que vous dites « Dieu est bon, il a fait tout ce qu'il fallait pour, mais tout se passe pas quand même très très bien, il y a des difficultés, il y a des meurtres, il y a des... Hein » Bon, donc, que vous arriviez petit à petit à l'idée de dire ben, « il y a peut-être aussi un Dieu du mal, il y a un Satan quelque part et tout », c'est pas une idée complètement stupide. Alors, bien entendu, les tenants des religions n'aiment pas ça, parce que s'il y a un Dieu bon et un Dieu mauvais, notre Dieu bon, il manque de poids, quoi, on le prend moins au sérieux. Bon, alors, c'est les versets sataniques, c'est ça la thématique. Ça a été mal compris, ça n'a pas voulu être compris, parce que les orthodoxes religieux ne veulent pas qu'on mette l'idée que Dieu pourrait ne pas avoir une immense bonté, une immense intelligence, etc. C'est ça le problème qui se pose. Bon, Monsieur Rushdie, j'en arrive à la Syrie par ce biais. Monsieur Rushdie, au moment où les États-Unis ont décidé d'attaquer la Syrie, c'est-à-dire de susciter la guerre en Syrie, a dit que, et il a signé un appel que j'ai lu, en disant qu'il faut que M. Bachar el-Assad s'en aille. Hein? Donc M. Bachar el-Assad est musulman, lui aussi. Hein? Oui. Bon, M. Rushdie a pris parti pour certains musulmans contre d'autres. Hein? Donc là, il ne s'est pas situé au-dessus de la mêlée.
Hein? Je dis quand même, il y a 1,5 milliard de musulmans. Bon, c'est vrai qu'il était libre de s'exprimer. Mais il s'est exprimé aussi pour Marie la Vierge et le Christ aussi. Hein, de la même manière, il a été... Donc je trouve cette droit à l'expression, c'est il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Mm-hmm. Bon, à mon avis. Oui. Après, bon, chacun voit autrement. Voilà.
Alors après, non, qu'ils s'en tiennent à dire c'est une expression littéraire, c'est mon imaginaire. Mais qu'après, sur le cas de la guerre civile en Syrie, ils soient très politiques, puisqu'ils disent Bachar doit s'en aller, ça, c'est pas du tout de l'orthodoxie religieuse. Hein.
Non, pas
c'est
du
une position
tout,
américaine.
Voir, c'est politique.
Hein. C'est une position américaine qu'il a reprise. Je rappelle, il est réfugié aux États-Unis et il a adopté la position américaine, c'est tout. Alors c'est après, qu'il soit au-dessus de tout ça, mais il n'est pas tout à fait au-dessus, puisque la preuve, là, dans un cas très concret de politique concrète, il a été pro-américain. Hein, et pas
ah,
du...
C'est clair. Bah attendez, oui, dès le départ, il a été protégé par le CIA,
voilà.
Par le FBI.
On ne peut pas être plus clair. Donc je tempère l'enthousiasme qui a été exprimé dans beaucoup de secteurs des médias nationaux et internationaux pour Salman Rushdie. Il est quand même un peu impliqué dans les affaires des États-Unis. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ils l'ont peut-être protégé, certes, mais il a, j'allais dire, gentiment renvoyé l'ascenseur. Hein, il a payé le prix de la protection. En disant Bachar doit s'en aller. Bon, c'est les pires. C'est du BHL, ça, Bachar doit s'en aller. C'est du Fabius. Voilà, 4 minutes. Bien. Alors, parlons de la Syrie, puisque ça mérite qu'on en parle. Puisque, à la suite, donc, vous savez qu'il y a eu toute une série d'entretiens à laquelle M. Erdogan a participé. Donc, un grand entretien, une grande conférence commune avec le président iranien, le président russe et donc le président turc, qui se sont vus donc, à Astana, au Kazakhstan. Et puis ensuite, il y a eu une conférence en tête-à-tête entre le président russe et le président Erdogan, qui a eu lieu, elle, à Sochi, qui a duré 4 heures, sans témoin apparemment, qui n'a pas donné lieu à beaucoup de commentaires, mais au terme de laquelle il semble bien que la présidence russe ait insisté pour que la Turquie arrête d'intervenir en permanence sur le sol de la République arabe syrienne. Paraît évident. Alors, on sait que l'excuse mise en avant par la Turquie, c'est de dire « Ah, mais il y a sur le sol de la République arabe syrienne, dans une petite partie, la partie nord-est du territoire, des Kurdes qui ne m'aiment pas. Hein. Et comme moi, je ne les aime pas non plus, bon, ben, je viens pour les éliminer. Bon. » Alors, il se trouve que c'était un peu plus compliqué que ça, parce que c'est sans doute des Kurdes, mais il y avait de longue date une minorité kurde sur le sol de la République arabe syrienne, voilà, qui aurait dû y trouver sa place. Et simplement, s'ils se sont mis à lutter à la fois contre le régime syrien et à la fois contre la Turquie, c'est que les États-Unis sont venus leur dire de le faire.
Mais contre les Kurdes eux-mêmes.
Voilà, et ils se battent en plus entre eux souvent.
Voilà.
Alors, donc, ce qui a été discuté, et apparemment c'est un peu dans ce sens-là qu'on va aller, si on en croit les positions qu'a pris le ministre des Affaires étrangères turc, M. Cavusoglu, c'est qu'on est en train quand même, au niveau de la Turquie et d'Erdogan, de réfléchir à un retrait de l'armée turque du territoire syrien, où il n'a rien à faire, où il n'a pas été invité, en échange d'un accord politique qu'il faudrait trouver entre les Kurdes qui habitent la Syrie et qui pourraient trouver leur place, et le gouvernement de Damas est d'accord pour qu'ils trouvent une place, avec des autonomies culturelles et tout, mais pourraient trouver une place de Syriens en Syrie. Donc de sortir de cette guerre qui continue, puisqu'elle ne continue que là, en Syrie, mais elle continue encore, donc depuis maintenant 11 ans, sans discontinuer.
On a l'impression que...
Vas-y.
Je pense, je ne sais pas, Idlib va être libéré.
Sans doute.
Par contre, le nord de la Syrie, sur 800 km, 900 km, voilà. Ce n'est pas terminé.
Voilà. Il y a encore effectivement une des dernières tentatives de Erdogan, c'est de dire « je veux une espèce de zone de sécurité le long de la frontière syrienne, mais au sud, donc du côté syrien, je veux un endroit où il n'y ait pas de Kurdes. » Donc une zone démilitarisée, on dirait.
Mais je crois que la Syrie n'acceptera pas.
Bon, là-dessus, il n'y a pas de raison. Donc on en est là. Mais en fait, il y a un assouplissement de la position turque.
Exactement.
Et cet assouplissement de la position turque est probablement à lier, et j'en parlerai la semaine prochaine, avec ce qui s'est passé dans la réunion qui a eu lieu à Lvov, où M. Guterres est venu parler à M. Zelensky et à M. Erdogan, et à eux tous les deux seuls, et où, d'après les dépêches que j'ai pu lire traduites du russe, la réunion entre ces trois personnages a duré 40 minutes, ce qui est très très peu quand on parle trois langues différentes, 40 minutes, et que les trois personnages sont ressortis de là avec plutôt l'air effondré. Bon. Donc, je pense, j'avance l'hypothèse et j'y reviendrai la semaine prochaine, que M. Zelensky et M. Erdogan se sont fait fortement tirer les oreilles et qui sont ressortis la queue basse.
Voilà.
Ce qui explique aussi peut-être l'espèce d'énervement, j'allais dire, tardif et épouvantable de M. Zelensky.
Oui,
M. Zelensky est au bout du rouleau. Il en peut plus. Et
c'est
donc,
vrai.
Le danger, c'est qu'il fasse n'importe quoi parce qu'il est au bout du rouleau.
Voilà. C'est ça,
donc, on est dans cette situation-là. C'est pas que la Russie, c'est pas que l'Ukraine, c'est pas que la Russie. C'est le monde entier qui est dans cette situation-là.
Exactement.
Parce que ce genre de personnage dangereux ne se contrôle plus. Il n'y a plus grand monde qui le contrôle. Si M. Guterres a pu avoir une influence sur lui en disant « calmez-vous maintenant, vous faites des choses folles », je souhaite que M. Guterres ait réussi. On en reparlera la semaine prochaine. Merci Aïcha.
Et le Habib.
Ah oui, Habib, oui, pardon. Une minute.
Si.
Allez, c'est parti.
Je peux ?
Oui.
Je voudrais bonjour à tout le monde, surtout la communauté syrienne à Marseille. Comme chaque année, l'Association de solidarité et d'aide franco-syrienne organise un voyage humanitaire pour la Syrie. Durant une année, nous avons donc économisé une certaine somme d'argent que je distribuerai directement à des handicapés de l'armée syrienne, à l'orphelinat El Sohare et à l'association El Sanabil. Les deux associations que j'ai citées sont très sérieuses. Si par contre, si vous désirez faire des dons à vos frères syriens qui souffrent actuellement à cause de cette guerre qui a duré environ 11 ans. Et comme il y a une occupation américaine de l'énergie, du pétrole et du gaz, la Syrie a une couche sociale qui se trouve dans la misère, vraiment dans la misère. En plus de ça, je ne vous dis pas tout, l'électricité, l'eau et tout ce qui s'ensuit. Alors, si vous voulez faire des dons, téléphonez au 06 85 74 95 61. Alors, je vous remercie.
Répète le numéro de téléphone.
Oui.
Répète-le. Le téléphone. Répète le téléphone.
Le téléphone, je le répète. 06 85 74 95 61. Alors, je vous remercie. Je remercie Radio Galère. Je remercie mes amis Aïcha et surtout notre ami Bernard Genet et Roseline.
Merci.
Voilà, je vous remercie infiniment.
Merci.
Nous attendons.